Apprendre les langues avec podcast, un service de l'école Club Migros. Ce podcast en français s'adresse aux étudiants à partir du niveau A2-B1. Pour toute information supplémentaire, consultez notre site internet www.podclub.ch.
Bonjour, soyez les bienvenus sur mon podcast « La vie de Marie ». Nous sommes le 22 mai 2015 et je vous propose aujourd'hui de nous promener dans les jolis villages de France. Puis, je vous invite à suivre le chemin difficile d'une ouverture de restaurant. Et puis, nous ferons des pompons. Les jolis villages de France, c'est le nom d'une grande enquête qui invite les Français à voter pour leur village préféré. C'est la chaîne de télévision France 2 qui diffuse ce programme dit culturel. Des 22 régions de France métropolitaine, un village, classé parmi les plus beaux, a été sélectionné. Parmi ces 22 villages, village perché sur une montagne, village de montagne ou de campagne, village médiévaux ou village au bord de l'eau, les Français devront voter pour celui qu'ils préfèrent. Pourquoi cette émission? La répartition des régions est toute nouvelle. C'est peut-être une façon pédagogique ou démagogique d'enseigner une leçon de géographie aux Français. C'est la crise économique. C'est une façon de dire aux Français « Regardez votre joli pays, soyez-en fiers et oubliez vos soucis. » Pour oublier la misère du dehors, il faut regarder à l'intérieur. Face à ce monde dont les frontières ne cessent de s'ouvrir, quoi de plus rassurant que de s'accrocher à ses racines? Car que pensez-vous que votent les Français? Vont-ils vraiment voter, objectivement, pour le village qu'ils trouvent effectivement le plus joli? Il y a Lotz, ce joli village avec ses maisons vigneronnes dans des rues en pente, traversées par la rivière La Loue, perdue dans la verte campagne de la Franche-Comté. Il y a quelque part dans la région Picardie, ce petit village en bord de mer, Olt, dont les maisons de maître longent les grandes étendues de sable blanc, et qui semble avoir été préservé de toutes les constructions de tourisme de masse. Il y a Saint-Émilion, en région Aquitaine, Saint-Thury, en Corse, et Ferrette, en Alsace. Ferrette, c'est le village à 15 km de chez moi. La photo sur le site de l'émission est jolie. Ferrette est présentée comme un village médiéval. Je cite, « blotti au pied de son château, avec ses rues pavées et ses maisons de caractère ». Ça, c'est l'image publicitaire. Il faut savoir que le château qui avait appartenu au comte de Ferrette durant près de 2 siècles au Moyen-Âge a été vendu à des particuliers. Un tel héritage n'aurait-il pas dû rester dans le domaine du patrimoine public? Le centre du village a été déserté par les commerçants et ce sont des banques qui s'y sont installées. Le centre du village est un centre bancaire. Charmant, non? Mais finalement, que vont faire les gens? Ils vont voter pour le village de leur région, même s'ils ne le trouvent pas si beau que cela. Les racines avant tout. Je vous avais raconté que j'étais fille de restaurateur et que depuis quelque temps, l'idée m'était venue de rouvrir ce restaurant. Eh bien, ce n'est pas chose facile. Le chemin est long. Tout d'abord, il me fallait faire une formation, qui évidemment est payante. Je l'ai faite. J'y ai appris les règles et les lois. Ne pas servir d'alcool à des gens déjà en état d'ébriété, à des mineurs. Bref, on vous demande de payer une formation pour vous rappeler que vous avez du bon sens. Puis, il faut vous faire une deuxième formation, payante, elle aussi, bien sûr. Avec celle-ci, on vous rappelle qu'il faut vous laver les mains avant et après avoir été aux toilettes. J'exagère, mais vraiment, on n'en est pas loin. Ce que j'y ai surtout appris, c'est que pour répondre aux normes hygiène très sévères, il est préférable de ne plus rien cuisiner et préparer soi-même. Mieux vaut servir de la mayonnaise en pot, de la sauce de salade toute préparée, des plats cuisinés, des œufs durs en tube prêts à découper. Voilà les solutions de facilité qui permettent de rester dans la réglementation. Et je ne vous parle pas des différents registres qu'il faut tenir. L'un dans lequel il faut expliquer comment nettoyer chaque plan de travail. Un autre où il faut signaler tous les dangers de la cuisine, comme par exemple ne pas mettre son doigt dans l'huile chaude. Et il y en a d'autres. Ensuite, j'ai dû monter un dossier pour demander une autorisation spéciale pour pouvoir ouvrir, même si mes toilettes ne peuvent pas accueillir des personnes à mobilité réduite. Ensuite, j'ai dû faire analyser mon eau. J'ai une eau de source, donc il est normal de vérifier si elle est potable. 25 bouteilles ont été remplies et j'ai 3 pages de résultats d'analyse. Bonne nouvelle, mon eau est potable. Ensuite, il faut qu'une commission de sécurité vérifie la sécurité de l'établissement. Il faut des extincteurs. Un pour éteindre les feux de la cuisine, un autre pour les feux électriques, un autre pour les feux de bois. Il faut installer des portes coupe-feu. Il faut que je mette des portes qui s'ouvrent vers l'extérieur. Il faut faire nettoyer les hottes par une entreprise spécialisée, bien sûr. D'ailleurs, c'est fou le nombre d'entreprises spécialisées qui se sont créées et vivent de ces nouvelles lois mises en place au nom de la sécurité. Bien sûr, il faut aussi des appareils qui fonctionnent, les machines à laver, la machine à café. Bref, je n'ai pas encore ouvert que déjà je suis endettée. Ah, j'oubliais toutes les démarches administratives. Les impôts, le tribunal du commerce, la préfecture, le service vétérinaire, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, et les travaux à finir, et les nettoyages, et toutes les préparations. Alors, les journées ne font que 24 heures. J'aimerais qu'on me dise comment je fais tout cela en continuant mes activités professionnelles, mes études et mes autres projets. Le prochain qui me demande quand j'ouvre mon restaurant, je le mets dans le vivier avec les carpes. J'ai repris mes études. Cela, si vous m'écoutez, vous l'avez compris. J'avais jusqu'à présent travaillé de manière irrégulière, autant que mon emploi du temps me le permettait. Je m'étais aussi inscrite à un concours de l'enseignement en France. Cela s'appelle un CAPES, le certificat d'aptitude professionnelle de l'enseignement dans le secondaire. Un concours, c'est un examen auquel peuvent s'inscrire des candidats qui répondent aux exigences de diplôme. Tous les candidats de toute la France passent le même examen. Une première sélection est faite à l'écrit, puis il y a des oraux. Le nombre de places offertes est décidé par le ministère. J'avais passé la première étape en décembre. Je devais avoir les résultats en avril. Parallèlement, je continuais mes études universitaires, lesquelles me préparaient aussi à ce concours. Or, depuis le début de l'année, je n'ai plus rien fait. Il y a des priorités dans la vie. Et depuis Noël, il en est une dans la mienne. Attention, roulement de tambour, blablabla. Je vais me marier. Marie se marie. Donc, vous comprendrez bien que mes études, le restaurant, tout cela est passé au second plan. Moi, ma priorité est devenue la confection de pompons. Ces boules en papier de soie que l'on accroche et qui font une très jolie décoration. J'ai acheté du papier de soie et d'après mes calculs, j'en avais 356 à réaliser. Entre deux pompons, je passais mon temps sur Internet pour trouver des idées de décoration, Préparer un mariage, c'est un travail à temps plein. Où le fait-on? Quel en sera le thème? Que va-t-on manger? Qui invite-t-on? Que vais-je porter? La robe de mariée occupait tout mon esprit. Bref, mon mariage était devenu ma priorité. J'avançais dans mes pompons quand je me suis souvenue de la date des résultats de la première étape du fameux concours. Ah tiens, je l'avais oublié celui-là. Je vais sur le site du ministère, entre mes numéros d'inscription et « admissible ». Comment vous décrire mon état d'esprit? Surprise tout d'abord. Heureuse, car parmi les plus de 2000 candidats, je figurais parmi les 235 sélectionnés. Et puis surtout, paniquée. Je devais me présenter 3 semaines plus tard à Lille pour passer l'oral. Et mes pompons? De quoi allais-je leur parler? De la confection de pompons? Vous me voyez dire à mon jury? Alors, la crise du vers poétique, oui. Vous ne voulez pas plutôt que je vous montre comment on fait un joli pompon? J'avais la chance d'être admissible. Il me fallait essayer. Passer l'oral, pour avoir peut-être une chance d'être admise. Les pompons ont été mis de côté. Les préparations pour l'ouverture du restaurant ont été abandonnées. J'ai ressorti mes livres, la grande table de cuisine est devenue mon bureau, et la poésie, le théâtre, le roman, les figures de style, la linguistique, la grammaire, mes nouveaux compagnons. Et plus la date du grand oral avançait, et moins je dormais. J'avais beau me dire que le ridicule ne tuait pas, j'étais tout de même très mal à l'aise. Enfin est arrivé le jour où je me suis rendue à Lille. Mais cela, je vous le raconte la prochaine fois, dans 2 semaines, sur www.podclub.ch ou sur notre app. Nous retrouverons aussi Clara quelque part dans les montagnes d'Argentine. En attendant, profitez du printemps. À bientôt.
Vous trouvez la version écrite de cet épisode sous www.podclub.ch. À propos, dans les écoles club, vous pouvez commencer un cours de langue à tout moment. Consultez notre site internet et n'hésitez pas à vous inscrire. Nos adresses de site internet sont les suivantes: www.clubschule.ch, www.ecoleclub.ch et www.scuolaclub.ch.